RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
L'émission en français avec Inès Azagra et Guillermo Brown.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français sur Radio Exterior d'Espagne. Bonjour Guillermo, bonjour chers auditeurs et auditrices de l'émission en français. Aujourd'hui, comme invité, je vous propose de vous pencher sur le travail de Camille Vanier, illustratrice. Elle réside à Barcelone et elle vient de sortir Imbécile, imbécile, paru chez la maison d'édition Caramba, une BD où l'ironie et le sarcasme se rencontrent, mais pas que ça.
Pour le coup, la politique espagnole, moi, on me demandait pas trop, parce que c'est vrai que je suis pas non plus hyper au fait, quoi. Mm-hmm. Enfin, je connais pas tous les machins. Mais ouais. Alors, mais par contre, dès que c'était un truc sur la France, là, c'était pour moi, j'ai fait une double page sur Éric Zemmour. J'étais vraiment ravie de le dessiner, mais en tout cas, je l'ai pas loupé.
C'était Camille Vanier pour l'émission en français en quelques minutes.
Merci Inès. Puis on continue avec la chronique d'Elsa Yazbek-Charabati qui fait le point sur la situation et tension au Proche-Orient avec une interview à Scarlett Haddad, politologue et journaliste. Ensuite, on fait le point avec notre stagiaire Oliver Barak sur la situation au Soudan un an après le début de la guerre.
À la technique, Javier López et au micro et dans vos oreilles, Inès Azagra et Guillermo Bravo et à la production, Cristina Dorado. Nous écoutons Niños Bravos et la chanson Soy un tardón.
Passons au journal de l'actu sur Radio Extérieur, Espagne.
Après plusieurs jours de spéculation sur la possible riposte de Israël à l'attaque aérienne de l'Iran, celle-ci est finalement arrivée.
C'est le son d'une des explosions dans la province de l'Isfahan, dans le centre du pays. D'après les autorités iraniennes, il s'agirait de la destruction de plusieurs drones. L'Iran minimise l'ampleur de cette attaque, tandis que le secteur plus extrémiste de l'Israël se montre fier et revendique sa vengeance.
Dans cette région de l'Iran, Isfahan, se trouve une importante base aérienne ainsi que des installations clés pour le programme nucléaire iranien. L'Agence internationale de l'énergie atomique, ces installations n'ont pas été touchées par l'attaque. D'après les experts consultés, ceci démontre que les effets de l'attaque ont été calculés au millimètre près et certains parlent même d'une désescalade. Nous écoutons l'officier Juan Rodríguez Garat et le professeur Ignacio Álvarez Osorio.
La posible escalada que se produzca sería si estos ataques rutinarios de los proxies de Irán en Oriente Medio empiezan a atacar a las bases de Estados Unidos.
Efectivamente lo ha hecho de una forma bastante calculada, bastante medida, golpeando una base aérea en Isfahan, según las noticias que tenemos por el momento, pero sin elevar el listón.
Les principales chancelleries européennes continuent de demander aux acteurs d'être responsables. Paris, Londres et Rome demandent de descendre le ton. La réponse israélienne, même si elle était limitée, inquiète les marchés internationaux.
L'émission en français, l'actualité du monde hispanophone en langue française.
De guerre larvée depuis de très longues années. Est-ce désormais la guerre déclarée entre l'Iran et Israël? Après l'attaque sans précédent de Téhéran contre Tel Aviv, venue elle-même en riposte à un bombardement contre le consulat iranien en Syrie, la situation au Moyen-Orient est plus tendue que jamais. Retenue ou embrassement? Telle est la question, élément de réponse avec notre correspondante du Moyen-Orient, Essa Yazbek Sharabati.
Des alertes aux raids aériens ont retenti en Israël. Les habitants ont cherché refuge. Des explosions ont été entendues et les défenses aériennes ont été activées. Pour la première fois, l'Iran a mené samedi 13 avril des attaques directes contre le territoire israélien. Des interceptions ont illuminé le ciel nocturne à plusieurs endroits du pays, tandis que de nombreux drones et missiles ont été abattus par les alliés d'Israël avant d'atteindre le territoire israélien. C'est donc une attaque inédite lancée directement d'Iran vers Israël. Jusqu'à maintenant, elle a fait plus de peur que de mal, mais est-ce le début d'une guerre déclarée ou une mise en scène? Réponse de Scarlett Haddad, journaliste et analyste politique.
Ce n'est pas seulement la première fois que l'Iran attaque Israël, c'est aussi la première fois qu'Israël est attaqué de cette façon généralisée, avec une pluie de missiles qui s'est abattue sur l'ensemble du territoire israélien. On parle de plus de 330 missiles de diverses natures. Et donc c'est une première et c'est certainement très grave. Les Israéliens sont descendus dans les abris dans toutes les régions du pays. Ce n'est pas une mince affaire. Ça a été quelques heures de, selon les médias israéliens, quelques heures de terreur. Seulement, les cibles choisies par les Iraniens sont des cibles qui ne sont pas des civils, c'est des militaires. Et ils savent très bien, les Iraniens, que leurs missiles ne peuvent pas contrecarrer et passer outre le dôme de fer établi par les Américains et les Occidentaux en général pour protéger Israël. Mais ils ont quand même réussi à faire passer quelques missiles qui, disent-ils, ont atteint leurs objectifs et les autres ont été interceptés. C'est donc une attaque qui est toute en symbole, bien plus qu'une attaque militaire effective. C'est pourquoi certains parlent de mise en scène. Ce n'est pas une mise en scène, c'est une attaque étudiée pour donner des messages à tout le monde, dans toutes les directions, aux Israéliens et aux autres, et aussi pour montrer la crédibilité de l'Iran, tout en ne dépassant pas certaines lignes qui pourraient provoquer une extension de la guerre.
En fait, cette attaque iranienne contre Israël était attendue depuis quelques jours. L'Iran avait promis de riposter après une attaque contre son consulat en Syrie le 1er avril, imputée à Israël. 13 personnes ont été tuées, dont un général de 63 ans, ayant une longue expérience de service au sein du corps des gardiens de la révolution islamique, la puissante armée parallèle iranienne. À noter qu'au moins 9 pays ont été impliqués dans l'escalade militaire du 13 avril, puisque les projectiles ont été tirés depuis l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Yémen, et abattus par Israël, les États-Unis et la France, ainsi que par la Jordanie. Mais était-ce une simple démonstration de force? Qu'en est-il de la riposte brandie par Israël? Et surtout, quelle implication pour la région, déjà exsangue, par 6 mois de bombardements israéliens sur Gaza?
Jusqu'à présent, on peut dire que les risques d'un élargissement de la guerre restent limités. Les Iraniens ont tout fait pour montrer qu'ils respectent certaines lignes rouges dans leur riposte mesurée. Et les Américains, de leur côté, font pression sur le premier ministre israélien pour l'empêcher d'aller vers un tel élargissement. Mais Netanyahou, lui, le veut parce qu'il se trouve actuellement dans une impasse et que cela permettrait de mélanger toutes les cartes actuelles dans la région. Donc, si ce scénario devait avoir lieu et Netanyahou peut essayer de tout faire pour en arriver là, à ce moment-là, cela signifiera que toute la région entre dans une période d'inconnu total, avec une confrontation sans ligne rouge et sans frein, où tout est permis. Les pays arabes qui jusqu'à présent se tiennent à l'écart seront obligés de s'impliquer et les factions de l'axe de la résistance seront toutes impliquées de façon plus violente. C'est un scénario dont on ne peut pas prévoir l'issue, mais il est sûr qu'il devrait changer les rapports de force dans la région. C'est un scénario possible, mais on n'en est pas encore là.
Scénario possible que craignent les habitants de la région qui se demandent pourquoi ces attaques maintenant. Surtout que depuis 1979 et l'instauration de la République islamique d'Iran, les relations Iran-Israël sont passées de la lune de miel à la lune de fiel, sans pour autant atteindre la guerre déclarée. Elsa Yazbek Charabati pour l'émission en français, Radio Extérieure d'Espagne.
Nous passons maintenant le micro à Oliver Brack. Nous continuons dans l'actualité, mais cette fois-ci en Afrique.
Effectivement, Guillaume, aujourd'hui je vous propose de parler d'un sujet extrêmement préoccupant. Le 15 avril dernier marque un an du début de la guerre au Soudan. Notre collègue Iñigo Alfonso en parlons-y il y a un an dans son bulletin de Las Mañanas de Radio Nacional.
Esa es la mañana de este 18 de abril y la comunidad internacional asiste con preocupación al estallido de violencia en Sudán.
This morning I made calls to generals Burhan and Hamedi.
Cette guerre confronte d'un côté l'armée régulière commandée par le général Al-Burhan et de l'autre côté les forces de soutien rapide des paramilitaires militaires dirigées par le général Dagolo, alias Emeti. Il y a quelques jours, lundi dernier, nous avons connu aussi que ces forces de soutien rapide ont pris le contrôle du palais du gouvernement et de l'aéroport de la capitale, Khartoum. Al-Burhan a répondu cette avancée. Voici l'extrait doublé par France 24.
Je le dis à voix haute, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour à ce qui existait avant le 15 avril 2023, le 25 octobre 2021 ou en avril 2019.
Les causes de cette guerre sont très complexes à synthétiser, mais elles se remontent pour l'essentiel à 2021. Cette année-là, en octobre, un coup militaire a terminé avec les gouvernements d'unité nationale qui, en 2019, avaient renversé les 30 ans de dictature de Omar el-Bechir. Les nouveaux gouvernements composés en 2021 suite à ces coups intégraient donc les deux partis, qui s'étaient alors engagés pour faire les transits vers un gouvernement civil. La source récente de ces conflits aurait été donc l'intégration des forces de soutien rapide dans l'armée régulière du pays. Un autre facteur qui complique les conflits, c'est l'implication des puissances étrangères. L'Égypte, l'Iran, le Qatar, la Turquie et l'Érythrée soutiennent l'armée régulière tandis que les paramilitaires sont soutenus par les Émirats arabes et par les groupes Wagner, les groupes paramilitaires russes. Le général Al-Burhan est d'ailleurs soutenu par l'Ukraine qui a envoyé des soldats au Soudan et vice versa pour se confronter sur le terrain. Le Soudan était une cible prioritaire à cause de sa concentration des combattants de Wagner. Nous trouverons nos ennemis peu importe où ils se trouvent sur la planète, affirme ce soldat ukrainien. Une enquête publiée en 2022 par Le Monde a confirmé que des mines d'or ont été cédées à des sociétés écrans du groupe Wagner avec la connivence du gouvernement soudanais depuis bien avant le début de la guerre. Le Soudan est le troisième producteur d'or en Afrique. Sa production est passée de 15 tonnes en 2019 à 107 tonnes en 2017. Pendant les 30 années de dictature d'Omar el-Béchir, des violations des droits humains se sont produites. Cette situation, loin d'être résolue, s'est poursuivie et aggravée à cause de cette nouvelle guerre. La communauté internationale, rassemblée à Paris lundi dernier, lors d'une conférence humanitaire, a promis de fournir une aide de plus de 2 milliards d'euros pour aider la population civile. Macron, pendant la conférence, a déclaré.
Et au total, nous pouvons annoncer que plus de 2 milliards d'euros seront mobilisés en faveur des femmes et des hommes du Soudan. Avant cette conférence, nous avions 190 millions d'euros d'engagement. Nous sommes ce soir à 2 milliards d'euros pour le Soudan.
Les conflits coïncident avec les guerres déjà en cours qui retiennent l'attention des médias. La guerre en Ukraine et de la guerre et la guerre entre l'Israël et la Palestine. Sans oublier l'importance et la barbarie de ces conflits, la guerre au Soudan doit attirer notre attention par ses dimensions. D'après le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 8 millions et demi de personnes ont été déplacées, dont 1,8 million sont des réfugiés qui ont dû quitter le pays pendant cette dernière année. Le nombre de personnes manquant de l'aide humanitaire est de 25 millions, un chiffre encore plus alarmant. Nous écoutons maintenant Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies.
The 2.7 billion US dollars humanitarian response plan for Sudan is only about 6% funded. At the same time, the 1.4 billion regional refugee response plan for the Sudan crisis is only about 7% funded.
Nous parlons des cas de malaria, de choléra, de malnutrition, de grossesse à risque, etc. Aussi, selon Médecins Sans Frontières et Save the Children, près de 10 millions d'enfants ont été à moins de 5 km d'un endroit de combat actif.
Qui attaque le Soudan et les pays alentours. Évidemment, ceci peut causer la crise alimentaire la plus importante dans le monde, qui dépasse le Soudan et ses voisins, le Tchad et le Sud-Soudan, en créant de l'instabilité.
Pendant la conférence à Paris, la directrice du Programme alimentaire mondial, Cindy McCain, avertit que la situation est presque catastrophique et que la crise alimentaire au Soudan pourrait être la plus grande jamais connue. Nous resterons très attentifs à ces conflits qui, malgré les autres guerres en cours dans la planète, ne doivent pas être oubliés.
Vous êtes à l'écoute de Radio Extérieure d'Espagne.
Bonjour, je suis en compagnie de Camille Vanier. Merci d'avoir accepté notre invitation, Camille.
Merci de m'avoir invitée.
Donc vous êtes une illustratrice indépendante, vous êtes née à Paris, mais vous habitez à Barcelone depuis longtemps. Vous êtes formée à l'atelier de Sèvres à Paris et après à l'Escola Massana. Vous avez publié vos illustrations pour des revues espagnoles ironiques telles que Jueves, même la revue Vice, et aussi des maisons d'édition telles que Lumen. Vous êtes aussi autrice de plusieurs BD où vous abordez d'un regard plein d'humeur et d'ironie ces petits moments de notre quotidien où on le se sent ridicule. Et aujourd'hui, nous allons parler surtout concrètement de cette dernière BD intitulée Imbécile, parue chez Caramba. Donc, Imbécile en Espagne, après Sexe de merde, une BD avec des traits très exagérés, histrioniques, forts, saturés en couleurs, mais surtout, toutes les pages sont remplies d'autodérision, d'humour et de moquerie. D'où vient cette ironie, ce walk of shame?
Je pense que c'est quelque chose que je fais depuis que je suis petite, et je pense que mes parents font ça aussi, en fait, de se moquer d'eux-mêmes beaucoup, d'avoir beaucoup d'autodérision et de prendre d'essayer de, comment dire, les choses qui nous arrivent qui sont pas forcément super, d'en rire plutôt qu'autre chose, quoi. Et c'est vrai que ça a été assez naturellement que du coup j'ai appliqué ça dans mon travail.
C'est plus difficile parler des autres que de parler de vous-même.
Oui, sûrement. Et puis je pense qu'en fait c'est surtout la langue, en fait, le fait que j'écris, ce soit pas écrit dans ma langue maternelle. Je pense que ça aide vachement, en fait,
de pouvoir avoir un écart.
C'est vrai que je me rends compte que j'ai pas vraiment de gêne quand je parle de mes histoires en espagnol, et que quand je traduis en français, je me dis, ah merde, mais j'ai dit ça, merde.
Comment je dois traduire? Justement, je voulais vous demander aussi par rapport à ça. Je trouve ça très bizarre d'écrire en espagnol et pas en français. Enfin.
Oui, c'est
pourquoi
vrai. parce que c'est vrai que je suis quand même beaucoup de temps à Barcelone, donc c'est
ça
vrai.
Ça fait
que,
combien d'années?
Ça fait 40 ans.
Wow, okay.
Non, pardon, 40 ans. J'ai 40 ans. C'est pas 40 ans. Enfin, qu'est-ce que. Ça fait 20 ans. Oh là là, je me suis embrouillée. Alors, donc, non, mais je suis tellement pas habituée à parler en français dernièrement que je m'embrouille. Non, enfin, donc ça fait une vingtaine d'années que je fais des allers-retours, tout ça, donc que je suis beaucoup à Barcelone. Et c'est vrai que d'écrire en espagnol, j'ai commencé à publier ici, en fait, mes premiers livres.
Ah, ok, d'accord.
Donc, mon premier livre qui s'appelait donc El horno no funciona, donc le four ne marche pas, qui n'a pas été traduit en France. Et ensuite, j'ai continué à publier ici. Et donc, c'est vrai que mes livres en France, c'est des traductions que je fais moi-même de mes livres en espagnol.
Waouh.
Donc voilà. Mais donc c'est vrai que comme j'ai écrit en espagnol, c'est ce que je vous disais, il y a cette distance qui se crée, quoi. Et donc c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise pour raconter vraiment tout. Donc voilà, il y a plus de filtre, quoi.
Comment vous avez commencé dans le monde de l'illustration à Barcelone? Ça a été compliqué? Ça a été plutôt naturel, organique? Ça s'est fait comment ça s'est fait?
En fait, je suis venue faire mes études. Mm-hmm. Donc, j'ai fait les ateliers de Sèvres à Paris. Et en fait, ensuite, j'ai passé les concours des écoles et j'étais prise à Barcelone. J'ai choisi Barcelone parce que je suis hyper originale comme nana et j'ai vu l'auberge espagnole. Et j'ai dit, en fait, je vais faire pareil que le mec dans le film, à la même ville, tout pareil. Et donc, j'ai fait ça.
Avec Judith Godrèche.
Ça aurait été super, mais elle n'était pas là. J'ai commencé à faire des études de design textile. Donc, en fait, je faisais des imprimés pour tissus. Et j'ai fait donc 2 ans de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien, mais c'était pas pour moi, quoi. Et donc, j'ai commencé. Ensuite, j'ai fait illustration. conseillé par un prof qui me disait, mais en fait, tes dessins sont cool, mais par contre, c'est vrai qu'en textile, ça colle pas trop, quoi. C'est peut-être plus dans ce domaine-là que tu pourrais t'épanouir et tout. Mm-hmm. Et effectivement, très rapidement, j'étais super heureuse. Tout ce que j'apprenais, ça, j'étais trop contente, quoi. C'était vraiment, j'étais au bon endroit, quoi.
Et vous continuez à travailler, par exemple, pour El Jueves. C'est comment travailler avec une revue si historiquement connue en Espagne, si politique?
Alors, en fait, je ne travaille plus avec El Jueves, mais depuis l'année dernière, en fait, ils ont changé de format. Maintenant, c'est mensuel et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui est parti, donc dont moi. Mais en tout cas, j'étais super contente, quoi. J'étais super fière et de pouvoir participer à effectivement un magazine aussi historique dans le monde de l'humour graphique et satirique.
Et dans le monde de l'humour espagnol aussi.
Ah oui, oui.
Complètement.
C'était vraiment la consécration, quoi. C'était genre... et surtout, j'ai beaucoup appris, en fait, là-bas, parce que, en fait, j'ai toujours raconté des petites vignettes et tout, mais ça, j'avais jamais fait ça, genre, officiellement, raconter des blagues sur la politique, des choses comme ça. Et, j'avais un très bon éditeur qui m'a beaucoup aidée et j'ai appris vraiment, je pense que j'ai appris beaucoup là-bas.
Ah oui, pour comprendre tous les enjeux espagnols, de la politique, des personnages publics, du gossip.
Alors, pour le coup, la politique espagnole, moi, on me demandait pas trop. C'est vrai que je suis pas non plus hyper, hyper au fait, quoi. Enfin, je connais pas tous les machins.
L'actualité.
Mais ouais. Alors, mais par contre, dès que c'était un truc sur la France, là, c'était pour moi, j'ai fait une double page sur Éric Zemmour. J'étais vraiment ravie de le dessiner, mais en tout cas, je l'ai pas loupé.
J'aimerais bien qu'on parle aussi de la couleur dans vos dessins. D'après ce que j'ai vu sur votre site web, la couleur, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. C'est assez violent. Comment la couleur est arrivée à vous? Et est-ce que vous avez fait des choses en noir et blanc?
Alors, en noir et blanc, alors... si c'était un choix par moi-même, en tout cas, c'est non, c'est sûr. Effectivement, la couleur, je sais pas, je pense que le fait d'avoir fait du textile et d'avoir beaucoup travaillé les imprimés, la mode, tout ça, je pense que ça est peut-être fait travailler plus mon sens de l'esthétique, en tout cas des couleurs, quoi, des combinaisons de couleurs, de pas avoir peur de mélanger des trucs qui a priori devraient pas du tout aller ensemble, ce genre de choses, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Et maintenant, je voulais vous demander sur un peu vos références dans le monde de la BD, autant francophone que dans le monde espagnol. Parce que moi, ça m'a fait tout de suite penser à Flavita Banana, à Monstruos Pareti, qui sont deux illustratrices espagnoles que je recommande beaucoup. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelles sont vos références?
Alors, en fait, c'est vrai que comme j'ai commencé la BD un peu tardivement, quoi, c'est vrai que j'ai commencé à lire assez tard. Après, je suis française, j'ai lu Tintin et Astérix quand j'étais petite, voilà. Mais c'est vrai qu'après, j'ai plus du tout lu de BD jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait. Donc, les références, en tout cas pour mon travail, c'est plutôt des références qui ne sont pas du monde de la BD. C'est plutôt genre en photo ou art conceptuel. Enfin, par exemple, pour moi, ce qui est l'inspiration principale de mon travail, par exemple, c'est Sophie Calle. Ou par exemple Nan Goldin aussi dans la photo. Et c'est vrai que c'est plus, par exemple, Sophie Calle qui raconte vachement, qui se met en scène et qui utilise sa vie dans son travail. Moi, c'est ça vraiment les trucs qui m'ont vraiment inspiré, en tout cas, à faire ce que je fais. Après, dans les styles et tout, après maintenant, effectivement, maintenant je lis de la BD. Hein, qu'est-ce que j'aime beaucoup? Alors en France, j'adore Aude Picot. Je trouve que c'est merveilleux tout ce qu'elle fait. Qu'est-ce que j'aime bien? Tara Booth, alors elle est plutôt illustratrice et c'est très détaché, elle dessine avec ses tripes, quoi. Je sais pas, j'aime bien. Après, des références espagnoles là comme ça, je vous me prenez à dépourvu. je ne sais pas quoi dire.
Et est-ce que les francophones pourront lire imbécile, mais en français?
Ah, mais ça serait super. Surtout que pour faire couverture, il suffit juste de rajouter un E, donc c'est vraiment super, super rapide à faire. Voilà. Je suis en contact avec la maison d'édition qui me publie jusqu'à présent en France, et donc on en discute.
J'espère que ça sera dans toutes les librairies bientôt.
Et moi aussi, merci.
On parlait avant de traduction et je me demande comment on traduit des choses qui parfois je sens qu'elles sont d'une quotidienneté espagnole incontournable. Et à la fois, je me dis comment il n'y a pas plus de blagues pour des Français. Enfin, c'est par exemple la R espagnole, l'obsession des patatas bravas, les sobremesas interminables. Comment ce jeu se fait, cette distance dont on parlait avant? Autant pour le dessin et pour la création en soi, autant pour la traduction.
Bah alors, pour la traduction, effectivement, j'ai une vignette qui a sauté entre pour Sexe de merde et Sexo de mierda. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, je me rendais bien compte que c'était un truc qui marchait vraiment pour les Espagnols. Qui était que, en fait, je me moquais des clichés sur les techniques de drague, selon les pays, en fait. Et j'ai le fameux, voulez-vous coucher avec moi ce soir qu'on connaît, hein, voilà, bon. Et donc il y avait ça. Et à la fin, je faisais une blague en disant oui, et puis les Anglais, et puis je disais, on s'en fout parce que de toute façon ils sont bourrés sur la Rambla, donc on s'en fout. Et en fait la maison d'édition française me disait, mais moi c'est un peu raciste ton truc, quoi. C'est genre, c'est un peu gratuit. Et je me disais, bah, effectivement ils connaissent pas les Anglais bourrés sur la Rambla toute l'année. Et effectivement ça c'est vrai que ça, c'est du coup, si t'es français tu te dis, bah c'est complètement gratos cette insulte là donc c'est vrai que je l'ai viré. Mais après je me moque beaucoup de des choses en général. C'est vrai que le fait d'être française en Espagne, c'est vrai que c'est genre,
ça apporte un regard quand même, je pense, non? Ça a fait
De toute façon mes amis se moquent de moi parce qu'ils me disent que toutes mes phrases commencent en disant bah en France, donc je compare tout en permanence, quoi. Mais pareil quand je vais en France, hein, c'est-à-dire que je suis là-bas en Espagne, c'est pas pareil, c'est mieux ça et ça. Non, mais je suis hyper relou, mais je pense que c'est un truc d'expat, hein.
Ouais, c'est vrai, ça arrive. Et il y a aussi sur votre site web énormément d'affiches de films. Vous êtes une grande cinéphile.
Vous avez vu que c'est un peu des films pourris la plupart.
Titanic.
Titanic c'est bien,
c'est quand
j'aime
même bien.
Bien,
voilà, c'est ça.
Non, mais j'ai Glitter, c'est un peu nul quand même, je pense, c'est connu pour être pourri. J'aime bien le cinéma mais surtout j'aime bien ridiculiser les trucs qui sont pas censés être drôles, quoi. Donc c'est
avec
vrai
ces grands sourires.
Donc c'est dès qu'il y a un sourire sur une affiche, je suis trop contente. J'adore dessiner les gens qui sourient avec leurs dents parce que je trouve que t'as l'air con direct. Donc voilà.
C'est vrai, on a l'air un peu con quand on sourit toujours avec les dents.
Bah voilà.
Pour finir, je voudrais parler de Barcelone en tant que ville un peu d'accueil. Après, ça fait 20 ans que vous êtes déjà à Barcelone, mais des festivals un peu du milieu de l'illustration à Barcelone qui me semblent en train de bouger beaucoup. Il y a énormément de festivals, des petites maisons d'édition. J'ai vu aussi que vous faites des fanzines. Je ne sais pas si on dit comme ça en français, fanzines.
Ah ben, je ne sais pas.
Comment vous voyez Barcelone dans le milieu de l'illustration contemporaine?
Je trouve qu'il se passe plein de trucs. Effectivement, il y a plein de petits festivals comme le Graf ou le Gutterfest, puis maintenant l'Anti-Gutter. Enfin, je trouve qu'il se passe plein de choses. Et puis, c'est vraiment l'occasion de rencontrer déjà les gens qui aiment ton travail, ce qui est quand même pas négligeable, quoi, parce que comme on est illustrateur ou enfin on fait de la BD, on est généralement tout seul devant son ordi,
ouais, dans une précarité
et puis de surtout de se retrouver avec les autres auteurs et de voir ce qui se fait, enfin c'est je trouve que c'est vraiment bien, il se passe plein de choses, ouais.
Dernière question, est-ce que vous allez présenter Imbécile à Madrid?
Ah bah alors je suis venue déjà, si on m'invite je reviens. Là j'ai une présentation à Majorque en mai, mais
dans le cadre d'un festival.
Non, d'une librairie qui m'a invitée.
Chouette.
Et puis non, mais Madrid, mais moi j'adore Madrid, donc moi je viens, si on m'invite je viens, c'est sûr.
Bah merci beaucoup Camille Vanier pour votre temps.
Bah merci beaucoup.
Merci à tous et à toutes, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve mardi, toujours sur Radio Extérieur d'Espagne. Merci Oliver et merci Guillermo.
Merci à toi Inès, ciao ciao.
Una vuelta al sol, son tus abrazos.